Oui, les températures ont chuté ces dernières semaines. Les prix de l'essence, de l'électricité et du gaz s'envolent, venant ainsi augmenter la précarité énergétique des foyers en difficulté. Mercredi avait lieu la première journée nationale de la précarité énergétique et le pape François invite de plus à célébrer ce dimanche la 5e journée mondiale des pauvres. Ce concours d'événements nous donne l'occasion de mieux comprendre les difficultés que connaissent de nombreux foyers et de découvrir les moyens de s'en sortir. Pour nous éclairer, nous accueillons ce matin la spécialiste de ces questions au Secours catholique Ariège-Garonne. Bonjour Marie-Hélène Le Priot.
Bonjour.
Je vous vois lever les yeux au ciel quand je dis la spécialiste, mais voilà, je pense que c'est de la fausse modestie. Alors au cours de l'hiver 2020-2021, un ménage sur 5 a souffert du froid dans son logement pour des raisons liées à la précarité énergétique. Depuis 10 ans, les prix d'électricité ont augmenté de 41% et ceux du gaz de 23%, alors que nous le savons, les revenus, les salaires, les prestations sociales n'ont pas suivi la même courbe. Ces tarifs vont malheureusement encore s'accroître au cours de l'hiver. Marie-Hélène Le Priot, est-ce que la crise sanitaire a renforcé cette précarité énergétique des familles que vous accompagnez au Secours catholique Ariège-Garonne ?
La crise sanitaire, on s'attendait vraiment à un tsunami là, ces jours-ci. Et les institutionnels et nous-mêmes n'avons pas de demandes supplémentaires conséquentes. Et ça, pour nous, c'est un étonnement. On pense que la crise sanitaire, pendant cette crise sanitaire, les travailleurs qui se sont retrouvés sans emploi ou dans la peine ont puisent dans leurs économies. Et donc, il va bien falloir qu'à un moment ou à un autre, ils demandent de l'aide. Et comme nous sommes entrés dans la période hivernale, c'est possible que les demandes affluent, donc courant avril 2022.
À la fin de la trêve hivernale. Alors justement, comment vous allez, préparer vos équipes et comment vous allez pouvoir accompagner ces familles qui risquent de déferler à partir d'avril 2022 à propos de la précarité énergétique ?
Donc, on a décidé au niveau du service précarité énergétique d'informer au maximum les bénévoles qui sont dans les équipes locales et qui n'ont pas l'opportunité, le temps ou même l'envie de se pencher sur tout ce qui peut être aide légale. Et donc, on fait des formations, on fait des flash infos, de façon à ce que tout le monde sache les mesures qui sont en cours ou qui vont être mises en place.
Alors, une première mesure dont nous avons entendu parler, c'est quand même ce chèque énergie. Est-ce que les familles y ont recours ?
Alors, le grand souci qui a été souligné par la Cour des comptes, qui a interpellé les pouvoirs publics, c'est que environ 25% des ménages qui ont reçu le chèque énergie ne l'utilisent pas. Donc, c'est vraiment une problématique pour nous aussi, bénévoles, de se dire mais pourquoi ? Donc, il y a beaucoup de raisons. La plupart reçoivent les enveloppes et une enveloppe de plus, on va pas l'ouvrir, quoi. Quand on a des soucis quand on a déjà des enveloppes qui s'empilent avec des demandes,
des factures,
etc. Donc, recevoir une lettre de plus à l'en-tête du gouvernement, une enveloppe qui est épaisse.
Ça fait peur.
François Boulot, qui est notre correspondant national de la précarité énergétique.
Au Secours catholique aussi.
Voilà, au Secours catholique, nous dit qu'il y a 7 pages d'explication.
Donc, il faut remplir un dossier de 7 pages avant de pouvoir accéder à ce chèque énergie, c'est
non,
ça ?
Non, c'est 7 pages pour expliquer, qui accompagne l'envoi du chèque énergie et pour donner des explications. Donc, c'est beaucoup trop confus, beaucoup trop long. Les personnes ne lisent pas, ils ne savent pas l'utiliser. Et voilà, d'où un manque d'utilisation de ce chèque énergie.
Et il y a aussi, face à la flambée des prix de l'énergie, une proposition que le gouvernement a faite le 15 septembre dernier, de verser une prime exceptionnelle de 100 euros pour tous les ménages qui bénéficiaient déjà de ce chèque énergie. Est-ce que cette disposition va davantage aider les ménages en précarité énergétique, ou est-ce qu'on sera dans le même schéma que le chèque énergie classique ?
Un chèque énergie, en moyenne, il est de 150 euros par famille et par an. Il est distribué automatiquement à partir du moment où on a fait une déclaration de revenus. Ça, c'est vraiment une obligation de base. Ne pas oublier de faire la déclaration de revenus.
Et si on n'a pas de revenus, qu'est-ce qu'on fait?
Si on n'a pas de revenus, il faut faire sa déclaration. Peu importe qu'on ait 10 euros de revenus dans l'année ou plus, il faut obligatoirement faire sa déclaration de revenus. C'est important, puisque le gouvernement, pour attribuer ce chèque énergie, se base sur les déclarations d'impôts. C'est vraiment la base.
Alors, on espère que ces deux mesures vont pouvoir effectivement aider les familles en précarité énergétique. Est-ce que vous pouvez nous décrire, Marie-Hélène Leprieux, les familles que vous recevez au Secours catholique avant de balayer d'autres aides et d'autres formes d'accompagnement que vous faites sur place?
Alors, le dispatching des familles, c'est... on a des personnes qui sont isolées, alors, qui peuvent être à la retraite, ou des travailleurs pauvres, des mamans isolées aussi avec des enfants. Et donc, c'est beaucoup ce panel-là que l'on reçoit. Celles qui sont en demande d'accompagnement, donc actuellement, c'est ça, quoi.
D'accord. Et est-ce que ce sont aussi des personnes qui sont dans des logements peut-être insalubres ou mal isolés? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'efforts pour rendre les logements plus isolés et plus sains. Est-ce que là, on a encore des disparités dans les foyers?
Beaucoup, puisque la grande raison de la précarité énergétique, c'est le mal logement. Le mal-logement qui conduit à certaines maladies, certaines pathologies respiratoires, entre autres. Et puis, à quelque chose qui est moins perceptible pour le commun des mortels. c'est l'isolement social. L'isolement social, en particulier, ce qui me touche particulièrement, ce sont les enfants qui, en sortant de l'école, ne vont pas inviter leurs petits copains à venir chez eux, parce que chez eux, il fait froid, parce que chez eux, il y a de la moisissure, parfois. Et c'est pas un habitat qui est sain. Et voilà, c'est important d'être bien chez soi.
Et à côté de ça, d'autres personnes sont aussi tentées de rester chez elles. Elles ont peut-être peur aussi d'aller dans la rue. Et est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'augmenter la facture d'électricité? Parce que quand on reste chez soi sans bouger, on a tendance à pousser un petit peu le chauffage.
Oui, on a constaté qu'il y avait plusieurs types de populations. Il y a les personnes qui sont retraitées, très modestes, qui ne sortent pas beaucoup de chez eux, qui ont froid, donc certains vont pousser le chauffage, d'autres pas, justement, vont économiser. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont sans activité professionnelle, qui restent chez elles et qui... tout le monde peut le constater, quand on est chez soi, qu'on ne bouge pas, on a froid, donc on a moins de chauffage. Par conséquent, les factures augmentent aussi.
Oui, c'est là que nous verrons peut-être d'ici quelques mois les conséquences de la crise sanitaire, avec ces périodes de confinement qui ont dû forcément alourdir la facture. L'ouverture à la concurrence des fournisseurs traditionnels d'énergie était censée permettre de lutter contre une hausse des prix. En fait, on constate que d'année après année, il n'en est rien, particulièrement cette année au sortir de la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a des mises en garde que vous faites auprès des familles que vous accompagnez dans ces contrats avec les fournisseurs d'énergie?
Absolument. Il est absolument important que que l'information passe au niveau des personnes que j'en accompagne, que les fournisseurs d'énergie qui ont fait beaucoup de pubs là, il y a quelques années pour harponner les clients.
Avec des prix qui étaient quand même très alléchants.
Oui, avec des prix qui étaient alléchants, mais il fallait lire le contrat. Parce que sur le contrat, en général, c'est la première année où les prix sont très attractifs. Et à la fin de la première année, il y a des augmentations qui passent quelquefois inaperçues. Et c'est à la fin de la deuxième année, quand les personnes reçoivent leurs factures, qu'ils s'aperçoivent qu'elle a considérablement augmenté. Et un problème se pose là actuellement, depuis le mois d'octobre, c'est avec la hausse des prix de l'électricité et aussi du gaz, que certains fournisseurs d'énergie stoppent carrément leur contrat.
Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas assez de marge ?
Parce qu'ils ne font pas assez de marge. Et ça, c'est bien dommage que les personnes ne le sachent pas.
Et alors, comment se retrouve une famille sans électricité si leur fournisseur arrête de leur fournir qu'est-ce qui se passe en fait ?
Alors, il n'y a pas de rupture de fourniture d'énergie parce que c'est Enedis à court terme, continue à fournir l'énergie. Mais il faut absolument qu'ils soient informés par leur énergéticien que le contrat s'arrête et qu'ils trouvent un autre fournisseur d'énergie. Et nous, on conseille d'aller chez un énergéticien historique, EDF ou Engie, avec qui il y a un pôle de solidarité qui est très, qui nous aide beaucoup à l'accompagnement des personnes qui ont des difficultés.
Et justement, vous parlez de ce pôle solidarité. Est-ce que c'est une obligation qu'ont tous les fournisseurs d'énergie à avoir une personne référente en fait dans leur entreprise qui puisse être sensibilisée à ces questions de précarité énergétique ?
Alors, depuis août 2008, tous les énergéticiens doivent avoir un référent solidarité. C'est une obligation. Et donc, ils n'en ont pas facilement, puisqu'ils sont tous en lien uniquement par informatique ou par téléphone.
Il est maintenant le temps de nous quitter et je voudrais quand même insister sur le rôle que vous avez et dont vous m'avez fait part en préparant cet entretien auprès des familles où vous transmettez en fait beaucoup d'informations qui viennent notamment des conseils départementaux, de la caisse d'allocation familiale, des centres communaux d'action sociale. Là aussi, vous accompagnez les personnes pour qu'elles puissent trouver les informations et l'aide dont elles ont besoin. Donc là encore, le Secours catholique est sur le terrain pour accompagner les familles en précarité énergétique.
On fait beaucoup de formations auprès de nos équipes pour qu'elles dispatchent toutes les informations, toutes les aides financières possibles et surtout qui envoient les personnes, les familles, vers les travailleurs sociaux de façon à monter des dossiers de demande d'aide.
Merci beaucoup Marie-Hélène Leprioux d'être venue dans nos studios ce matin pour nous éclairer sur la précarité énergétique et les différents moyens, les différentes aides mises à disposition par le Secours catholique pour en sortir.